écoutez le Poste National sur l'ensemble du réseau radio de la CRTV. Il est 20h. Voici le journal, une présentation de Marie-Chantal Noah.
Madame, Monsieur, bonsoir. Le Cameroun dispose désormais d'un musée des ordres nationaux. La structure basée au musée national à Yaoundé était inaugurée en fin d'après-midi par le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Trêve scolaire et utilisation des réseaux sociaux. Les vacanciers adeptes des plateformes numériques, WhatsApp, Facebook, Instagram, tout y passe. Mais quel contenu, quelles opportunités et surtout, comment amener les jeunes internautes à utiliser sainement les réseaux sociaux? C'est la trame du dossier du 20h. Invité, Laurentine Assiga, journaliste et blogueuse. L'exploitation industrielle de la bauxite de Mini-Martap bientôt réalité. Les populations locales espèrent bénéficier des retombées directes de ce projet. En sport, Coupe du Cameroun de rugby 2024, Red Dragon chez les dames et Espoir Rugby chez les messieurs. Vainqueur, c'était au terme des finales disputées ce jour à Yaoundé. Bienvenue au journal. Célébration de l'excellence et du mérite camerounais. Au nom du président de la République, Paul Biya, grand maître des ordres nationaux, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a présidé cette fin d'après-midi à Yaoundé la cérémonie de commémoration du centenaire du mérite camerounais, couplée à l'inauguration du musée des ordres nationaux. Le musée national sera désormais le lieu de référence pour les générations futures qui voudraient en savoir plus sur l'histoire et la conservation du patrimoine national. Laurentine Bocono.
Un événement en deux. Premier tableau, la première médaille, dénommée médaille du mérite indigène. Elle a été créée par le français marchand Théodore Paul, commissaire de la République au Cameroun dans l'ordre du mérite camerounais. C'est la deuxième plus haute décoration du Cameroun, créée en 1924. Il était de bon temps que l'événement fût célébré en 2024 pour marquer le centenaire. C'est chose faite. Deuxième tableau, l'espace dédié aux ordres nationaux. Le musée de la chancellerie des ordres nationaux constitue désormais au musée national un lieu riche d'histoire et symbole pour le Cameroun. Ici, se succèdent des précieuses distinctions et armoiries de la République, symbole de la patrie et de la nation reconnaissante. L'ordre de la valeur, l'ordre du mérite camerounais, l'ordre du mérite agricole, l'ordre du mérite sportif. Ces distinctions sont réparties par grade. L'exposition au musée des ordres nationaux comporte ainsi des médailles sur présentoir qui traduisent leur évolution dans le temps. À découvrir au rythme berçant de soir au village de Manouti Bango, la légende de la musique camerounaise. Le premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, énonce la suite de l'histoire.
La toute première médaille fut décernée à un concitoyen sur le sol camerounais à la faveur de la création d'un ordre colonial allemand dénommé Ordre de l'éléphant après la signature du traité Germano-Douala le 12 juillet 1984. Le souvenir de nos compatriotes qui furent donc les premiers à être distingués par leur courage au service de notre patrie doit perpétuellement être ravivé quand nous en sommes incontestablement les dépositaires. Conscient de cette réalité, Son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, a bien voulu autoriser l'ouverture du musée de la Grande Chancellerie des ordres nationaux et son inauguration simultanément avec la commémoration du centenaire de l'Ordre du Mérite. Cette nouvelle structure a dorénavant le devoir de vulgariser le système camerounais des ordres nationaux et des médailles, mais aussi de sauvegarder et de rendre accessibles les archives s'y rapportant.
De la parole parole aux actes, 5 personnalités de la grande chancellerie ont reçu leur distinction honorifique au nom du président de la République, des mains du premier ministre chef du gouvernement. Qualité comportementale, en sus des compétences professionnelles ou techniques, la patrie reconnaissante. Musée national de Yaoundé, Laurentine Bekono, CRTV.
À votre suite, Laurentine, disons que le premier ministre chef du gouvernement au nom du chef de l'État, Paul Biya, a présidé déjà en matinée la clôture officielle du CIARC 2024. La rencontre internationale avait pour cadre le Musée national de Yaoundé sur le thème « Le numérique comme facteur de développement durable de l'artisanat et d'inclusion globale des artisans ». Les 7 responsables de l'enseignement supérieur récemment nommés par le premier ministre chef du gouvernement installés dans leurs fonctions cet après-midi à Yaoundé. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, représentant du ministre d'État Jacques Pham Dongo, leur a recommandé la professionnalisation, la digitalisation des enseignements et l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur. Toussaint Bemanya.
Pour bien exécuter la feuille de route qui leur a été prescrite par le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, représentant du ministre d'État Jacques Pham Ndongo, les 7 responsables installés auront pour outil de travail la loi d'orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun, promulguée par le président de la République le 23 juillet 2023. Une loi qui fait de l'université un cadre de formation des étudiants prêt à l'emploi et à l'entrepreneuriat, acteur de développement du Cameroun à l'horizon 2035. Il sera donc question pour les promus de mettre à contribution leur intelligence, expérience et compétences afin de réaliser le vaste chantier de construction d'un enseignement supérieur de qualité, inscrit dans le paradigme de la révolution digitale en cours dans ce département ministériel. Les responsables installés ont tous présenté un profil académique et professionnel suffisamment étoffé pour mériter la haute confiance de l'État. Toute chose qui traduit la volonté des pouvoirs publics de faire évoluer le système de l'enseignement supérieur camerounais pour l'arrimer aux standards internationaux et qu'il devienne surtout porteur de développement du pays. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, le professeur Wilfried Gapsa, dit savoir compter sur ses scientifiques et technocrates à l'expérience avérée pour la réussite des missions qui leur sont assignées.
Pendant ce temps, l'Université de Maroua met sur le marché de l'emploi plus de 3000 nouveaux diplômés. C'est à l'issue d'une cérémonie de remise de parchemin présidée par le recteur de cette institution au nom du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Formé dans les domaines de l'ingénierie et autres questions de développement, ces lauréats entendent mettre leur savoir-faire au service du Cameroun. Adamou Moussa de CRTV Extrême Nord.
Ils ont des idées pleines la tête et l'engagement requis pour apporter leur contribution à l'œuvre de construction nationale. Les 3695 lauréats issus des établissements de l'Université de Maroua, formés dans une approche pluridisciplinaire, entendent mettre ce savoir au service de la nation.
Wilfried Nguema, ingénieur en formation d'hydrocarbures et de la mine pétrolière. Nous comptons réellement développer notre pays. Nous avons des capacités pour l'exploitation et la transformation de la mine.
Nanti des licences classiques ou professionnelles, des diplômes d'ingénieur, cette nouvelle cuvée mise sur le marché de l'emploi va permettre de relever les multiples défis de l'heure. Professeur Idriss Ouallioum, recteur.
Nous mettons à la disposition de la nation des jeunes très bien formés dans des domaines aussi variés que l'hydraulique et maîtrise des eaux, l'énergie renouvelable, le raffinage et pétrochimie. Nous avons enjoint ces lauréats d'avoir l'esprit d'innovation.
Le chef de cette institution au nom du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a souligné que l'Université de Maroua, à l'heure de la professionnalisation des enseignements, matérialise la nouvelle gouvernance universitaire. Maroua, Adamou Moussa, CRTV.
Nous voici en santé. Initiée par la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, la campagne de sensibilisation dénommée « Vacances sans sida » a démarré ce jour. Lancement co-présidé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutou, et le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Détail, Joseph Clément Omba.
Rendu cette année à sa 22e édition, « Vacances sans sida » continue d'être un des fleurons de la lutte de Mme Chantal Biya, contre cette pandémie. Après la création en 2002 des synergies africaines, vacances sans sida et en terre camerounaise, l'une des manifestations concrètes de l'engagement des épouses du chef de l'État à barrer la route au sida. Un mot de sensibilisation original, mené par les jeunes et pour les jeunes, créé par Mme Chantal Biya en 2003. Vacances sans sida a aujourd'hui fait tache d'huile dans la sous-région. Pour l'année 2023, 3 700 000 adolescents ont été touchés. 240 000 préservatifs masculins distribués, 40 000 féminins suivent la même trajectoire. 26 000 jeunes ont accepté de se faire dépister avec 244 positifs, dont 165 nouveaux cas. 140 ont été mis sous traitement. Comme modus operandi, la première dame camerounaise, il y a le plaidoyer national et international. Grâce à ce plaidoyer est né en 2006 le Centre international de référence Chantal Biya. Ses laboratoires, références dans la sous-région, ont permis une maîtrise rassurante de la résistance des patients aux antirétroviraux, une maîtrise des co-infections avec d'autres maladies comme les hépatites, le diagnostic précoce du VIH chez les nouveau-nés, sans oublier le vaccin social. Parmi les instruments privilégiés par la première dame camerounaise, il y a la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Le centre mère et enfant de la Fondation Chantal Biya a servi de structure pilote à son expérimentation. La PTME est le cœur de la prévention du sida. Le sida, qui était un sujet tabou, est sorti du bois. Convaincue personnellement par Mme Chantal Biya en 2001, Pauline Mouton a été la toute première personne à témoigner à visage découvert. Cela a été un des déclencheurs de la fin de la stigmatisation. Si le taux de séroprévalence au VIH est passé ces 20 dernières années de 5,5% à 2,7%, Mme Chantal Biya y est pour beaucoup. Elle soutient l'action des pouvoirs publics aux côtés du ministère de la Santé publique à travers le Comité national de lutte contre le sida. La pandémie est réduite à sa plus simple expression. De bon augure pour que nous atteignions l'objectif d'éradication du sida à l'horizon 2030.
Heures passées de 12 minutes, venons-en au dossier du soir. Les plateformes numériques font courir les vacanciers. WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat sont autant de médias sociaux utilisés. Des plateformes sollicitées par la jeunesse pour le divertissement et l'approfondissement des travaux de recherche. Ibrahim Mohamed Abassi.
Les jeunes sont connectés aux plateformes numériques. Ils aiment, partagent et postent des informations à longueur de journée depuis le début de cette période de trêve scolaire. Différents types de médias sociaux sont sollicités et les raisons sont diverses.
WhatsApp permet d'être toujours en ligne avec mes camarades. Sur X, je retrouve des informations avérées.
J'utilise beaucoup plus TikTok, on veut petites distractions, les vidéos amusantes pour communiquer avec des amis.
Pinterest, je peux facilement faire mes recherches. Il y a des vidéos, des images, des documents et des photos. C'est très accessible et c'est facile à utiliser, surtout pendant les vacances parce qu'il faut se distraire.
Au-delà du divertissement et de la recherche, ces plateformes numériques offre des opportunités aux vacanciers de s'éduquer et de tisser des liens avec d'autres membres de la communauté.
Ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes. Je m'abonne à certaines pages qui tournent autour de la science et ça m'éduque. Je regarde les actualités, les trends, les danses. Ça me permet de m'évader.
La jeunesse s'engage ainsi pour une utilisation responsable de plateformes digitales pendant cette période de vacances scolaires.
Le paysage numérique au Cameroun comme ailleurs est une panoplie de plateformes digitales qui proposent des contenus et des opportunités diverses. Question d'occuper sainement leurs utilisateurs et mettre à leur disposition des solutions pour leur épanouissement. C'est du moins l'avis des experts captés par Agnès Sylvienne Antama.
Se déployer dans les réseaux sociaux, il faut le savoir, exige d'avoir des centres d'intérêt. Les experts proposent d'éviter une navigation à vue qui très souvent expose et oriente vers des contenus inappropriés, voire sans intérêt. Dania Ebonguet, président de l'Association des blogueurs du Cameroun, et Dominique Sidouane Mweni-Meni, experte en leadership et en coaching personnel.
C'est un lieu de création de communautés, d'apprentissage et d'information. d'informations pour peu qu'on ait accès à des plateformes édifiantes.
Il est vraiment important que les jeunes sachent que les réseaux sociaux, c'est pas juste pour aller s'amuser, pour aller faire des posts stupides, mais qu'à travers les réseaux sociaux, on peut se faire de l'argent.
Et les contenus proposés sont alors divers et à la portée de tous.
On peut développer ses compétences, cette facilité de réseautage. Vous pouvez vous former davantage.
Les réseaux sociaux sont un espace d'expression et de créativité, de partage de passion. C'est un lieu de socialisation.
Mais il faut cependant maîtriser la spécificité de chaque réseau social.
Les opportunités professionnelles se trouvent essentiellement sur LinkedIn.
Facebook permet de rester connecté avec les pros.
Le sens des discernements de tous est interpellé pour mieux capter toutes les opportunités positives qu'offrent les réseaux sociaux.
Au Cameroun, les vacances scolaires ne sont plus synonymes d'oisiveté pour les jeunes. Grâce aux réseaux sociaux, les vacanciers s'occupent pour tuer le temps. Entre créativité, apprentissage et engagement, les centres d'intérêt sont variés, nous dit Gilles-Claude Bon-Etundi.
Les idées des jeunes prennent la forme de contenus viraux. Chanter comme une rockstar, danser comme Beyoncé ou encore avoir de l'humour accroît la notoriété en ligne. Pendant les vacances, la créativité est débordante, loin du stress des devoirs à faire à la maison. Et les jeunes ne sont pas à court d'ingéniosité. Le rapport mondial sur le numérique de We Are Social, l'agence mondiale qui scrute l'activité d'Internet, mentionne plus de 2,7 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux de moins de 18 ans au Cameroun en 2024. YouTube, Instagram et TikTok deviennent alors leurs toiles favorites où se dessinent leurs talents. Les vacances scolaires deviennent aussi un prolongement de l'enseignement. Facebook, par exemple, est souvent utilisé pour des discussions autour des sujets éducatifs. YouTube, quant à lui, regorge de tutoriels allant des mathématiques à l'anglais, en passant par des cours de cuisine. On passe de l'école en présentiel à l'école 2.0 pendant les vacances. La jeunesse camerounaise trouve également sur les réseaux sociaux un terrain fertile pour l'engagement citoyen, se mobiliser pour des causes sociales, environnementales et même parfois politiques. Être acteur de la société cultive le sens de la responsabilité. Les réseaux sociaux ouvrent des portes vers le business, commerce en ligne et marketing digital en la côte. Pendant les vacances, se remplir les poches, c'est toujours mieux que de ronfler dans son plumard. Mais attention tout de même à l'addiction. Pas plus de 4 heures par jour devant son écran connecté, prévient l'Organisation mondiale de la santé.
Invitée du 20h, Laurentine Assiga, journaliste, blogueuse et experte en communication d'influence, souligne l'apport des réseaux sociaux dans l'encadrement utile des vacanciers et davantage encore dans l'insertion professionnelle des jeunes. Car au-delà des dérives qui peuvent être observées, il s'agit des espaces incontournables aujourd'hui pour se développer, se former et pour avoir un emploi. Madame Laurentine Assiga répond aux questions d'Agnès-Sylvienne Anzama.
Laurentine Assiga, bonsoir.
Bonjour Agnès.
L'image qu'on a des réseaux sociaux dans notre paysage numérique aujourd'hui est celui des plateformes de libertinage et de dérives de tous ordres. Est-ce également votre avis? Sinon, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de bon à être présent dans ces espaces virtuels?
Comme dans la vie ordinaire, il y a là-bas la bonne herbe et l'ivraie. Sauf que la grande majorité semble s'intéresser aux tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Ce qui est bon à être présenté pour moi, ce sont des valeurs du bien. Travailler dignement, réussir par le culte de l'effort, tout ce qui concourt au bien de l'être humain sans le dévoyer.
C'est la période des vacances scolaires. Comment utiliser sainement ces réseaux sociaux?
Pour moi, c'est comme l'éducation à la maison. Les parents, en premier lieu, doivent être bien éduqués en la matière. Mais malheureusement, cette innovation technologique a subi presque tout le monde. Il faut donc maîtriser le fonctionnement, identifier ses centres d'intérêt avant de choisir un réseau social ou être présent. Pas chercher sur les réseaux sociaux, est-ce que j'y vais pour m'y divertir, est-ce que j'y vais pour me former, est-ce que j'y vais pour trouver un emploi. Il faut vraiment que le Camerounais lambda soit assez outillé et savoir qu'être influenceur dans les thèmes marketing, c'est vraiment être un commercial. Mais de façon beaucoup plus pointue, je recommanderais un réseau social comme LinkedIn, qui est vraiment l'outil le plus adapté en termes de professionnel. Si vous cherchez un stage dans une bonne entreprise ou bien dans une grande école, et si vous allez vraiment tout trouver sur LinkedIn.
Alors, les réseaux sociaux, Laurentine Assiga, sont donc aussi des espaces d'épanouissement pour les jeunes, au-delà des dérives souvent décriées.
Il faut vraiment éduquer les enfants d'abord à la maison. Avant qu'ils n'aillent cette arène numérique, il faut qu'ils sachent que voilà, je ne dois pas chercher les gens qui s'engueulent. Il faut vraiment les orienter et les parents doivent veiller. Il faut toujours veiller, c'est très important.
Laurentine Assiga, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Avant de refermer ce dossier, puisque nous parlons des TIC, signalons la fin ce mercredi de la visite de travail du titulaire de la chaire UNESCO Accétique d'Afrique centrale à Brazzaville au Congo. Après l'accord de partenariat signé avec le PREF-CEMAC, Armand-Claude Abanda a été reçu par des autorités congolaises et des partenaires étrangers installés à Brazzaville. Vous êtes sur le poste national de la CRTV. Exploitation industrielle de la bauxite de Mini-Martha. Les populations saluent la mise en œuvre progressive du projet. La convention minière signée hier entre l'État du Cameroun et l'entreprise adjudicataire offre des retombées socio-économiques bénéfiques pour le Cameroun en général et particulièrement pour les populations qui espèrent voir le projet transformer leurs conditions de vie. Voici quelques réactions compilé par Abdulaziz Amadou de CRTV à Damawa.
Le rêve longtemps caressé par les populations du village Bobodji dans l'arrondissement de Martap est devenu une réalité. Le chef du village, Amo Asadjo, déborde de joie. Il espère voir tous les jeunes de son village sortir du désœuvrement et son village totalement désenclavé. Sentiment partagé par le maire de la commune de Martap qui regarde déjà l'avenir avec optimisme. Iya Souleymane.
On a attendu jusqu'à ce qu'on avait même des crampes aux pieds. Je pense que le moment est arrivé pour que nous essayions de sortir de la pauvreté.
Place à présent à la mobilisation de toutes les forces vives.
Les élites de l'arrondissement de Martap ainsi que les frères qui sont de Tibati et de Ngaoundal. Nous allons essayer de faire des réunions avec nos élites pour que vraiment on essaye d'accueillir ces travailleurs qui seront dans l'arrondissement.
Le sous-préfet de Martap, Dougina Ketemou, est allé à la base vie de l'entreprise, réitérer l'engagement des pouvoirs publics à veiller à la sécurité de tous les sites d'exploitation. Martap, Abdulaziz Amadou, CRTV.
Toujours dans la Damawa, près de 500 personnels issus de divers corps d'armée se sont retrouvés ce mercredi dans la caserne des sapeurs-pompiers de Ngaoundéré. C'est dans le cadre du grand rapport qui regroupe régulièrement les forces de défense et de sécurité pour magnifier la cohésion et la collaboration. C'était sous la coordination du commandant du secteur militaire numéro 5, le colonel Jacques-Olivier Ntsamamengele. Compte rendu, Saïdou Mohamadou de CRTV Damawa.
Le Grand Rapport est un événement qui a été un témoignage fort de la synergie et de la coopération entre les différentes branches des forces de défense et de sécurité exerçant dans l'Adamawa. Une démarche essentielle pour la cohésion et l'efficacité de nos forces armées face aux défis sécuritaires issus de l'armée de l'air, de la gendarmerie, du MINFOF, de l'administration pénitentiaire, de la police, du corps national des sapeurs-pompiers, du BIR, de l'armée de terre et des forces spéciales pour célébrer leur synergie et leur collaboration interarmée. Le lieutenant-colonel Médecin Foku a abordé la question cruciale de la santé au sein des forces de défense. Il a souligné l'importance de la prévention et de l'éducation en matière de séroprévalence du VIH et des IST. Le commandant Dahirou, lui, a insisté sur l'importance d'accueillir des nouvelles recrues et de les aider sans chercher à les arnaquer. Jean-Claude Auchin, chef du centre régional des impôts de l'Adamawa, a notamment saisi l'opportunité qu'offre ce grand regroupement de forces de défense pour présenter la déclaration annuelle récapitulative des impôts de 2023 pour les personnes physiques. Saïdou Mohamadou, Ngaoundéré, CRTV.
Lutte contre le banditisme urbain, les agressions et autres litiges fonciers dans l'arrondissement de Ngaoundéré 2e, le préfet du département de la Vine a prescrit des méthodes fortes. Valérie Norbert Kouela annonce un déploiement conséquent des forces de défense et de sécurité et demande aux populations de collaborer pour l'atteinte des objectifs. C'était ce mercredi à la faveur de sa tournée de prise de contact. Clôture ce jour à Yaoundé de la première conférence de la société civile villes du bassin du Congo. Pendant 3 jours, les participants venus de 6 pays ont échangé sur les problèmes majeurs de ce massif forestier et sur des actions à mener pour le préserver. Sur les principales résolutions de cette rencontre, écoutons le responsable d'une organisation de la société civile, Madame Stella Tchoukep, au micro de Eliane Matingoum.
Mettre en place un dispositif de suivi des différentes politiques de développement. Ce dispositif viendrait pour permettre au gouvernement de s'assurer que les engagements qu'ils ont pris au niveau international sont intégrés et incorporés dans les différentes politiques et législations qui sont mises en place. C'est la raison pour laquelle nous saluons les initiatives qui sont mises par le gouvernement et nous leur demandons encore plus. Pour l'autre résolution, c'est surtout en termes de protection des droits des peuples autochtones. On se rend compte que dans les 6 pays du bassin du Congo, il y a les peuples autochtones. Dans certains pays, il y a des législations. On va parler par exemple de la République centrafricaine qui a ratifié la convention la plus importante aujourd'hui, la convention 169 de l'OIT. Malheureusement, on se rend compte que l'implémentation ne suit pas. La troisième résolution, c'est vraiment en ce qui concerne la finance climatique. Nous l'adressons à la communauté internationale. C'est de dire que nous devons protéger et préserver le bassin du Congo.
Le Cameroun, moteur des économies de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, peut désormais compter sur l'économie bleue pour assurer une réelle augmentation de sa croissance. Une stratégie nationale de densification de cette économie était élaborée à Yaoundé sous la supervision du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales a engagé les membres de la plateforme à faire preuve d'innovation pour la prospérité des économies de la sous-région. Docteur Taïga, dans cet extrait de discours sélectionné par Sylvain Yarman.
L'économie bleue revêt une importance particulière pour notre pays, dans le sens de marquer la grande richesse des eaux maritimes constituées au Cameroun de 402 km de côte, d'une zone exclusive économique exclusive d'une superficie de 15 400 km², de nombreux cours d'eau continentales, des retenues d'eau, des fleuves et cours d'eau qui favorisent le développement d'activités économiques diversifiées, contribuant significativement à l'économie nationale et à l'emploi. L'Union africaine, dans son agenda 2063, considère l'économie bleue comme la nouvelle frontière de la renaissance de l'Afrique.
Docteur Taïga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. Projet de gouvernance locale et communauté résiliente lancé à Bertois dans la région de l'Est. Les maires et les responsables régionaux des services déconcentrés étaient édifiés sur les contours de ce projet qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, qui présidait la manifestation, invite les parties prenantes à tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs fixés. Concours national ville propre au Cameroun, les communes d'arrondissement de la région du Sud-Ouest appelées à s'investir et à se donner tous les moyens possibles pour remporter la compétition. Exhortation du secrétaire général des services du gouverneur de la région du Sud-Ouest ce jeudi à Boya. Gilbert Achankwenti invite par ailleurs les populations à accompagner leur municipalité pour que la palme d'or revienne au Sud-Ouest. Environ 850 cartes nationales d'identité établies en 3 jours dans l'arrondissement d'Ayos, département du Nyon-Infoumou. La caravane d'identification que conduit le maire Paul Ndongobiko avec l'appui de la police poursuit son bonhomme de chemin. Demain jeudi, elle sera dans le groupement Onvan Rural avec pour premier arrêt l'école de Mbakok à 8h pour les militants RDPC d'Aton, Mbakok, Ngun 1 et 2. Le deuxième arrêt, ce sera à 12h à l'école de Ngolé-Beaumont, village concernés, Ngoubi, Nkolo Boudou et Ngolé Bomo. En sport, rugby à 15, Red Dragon chez les dames et espoir rugby chez les messieurs sont les vainqueurs de la Coupe du Cameroun édition 2024. Les deux formations succèdent à elles-mêmes au terme des finales jouées ce jour. Le président du comité de normalisation de rugby, Félix Etundi, se réjouit du niveau élevé de ces finales et annonce la suite du processus. Il est au micro de Jean Armstrong Njou.
Le comité de normalisation poursuit sereinement ses activités. C'est la fin de l'année sportive avec l'organisation de cette très belle finale. Maintenant, comme le représentant du ministre l'a dit, le comité de normalisation dispose encore de 4 mois pour terminer sa mission, c'est-à-dire jusqu'en fin décembre. Je l'ai dit, je l'annonce, d'ici la fin de l'année, nous sommes appelés à organiser une élection. L'élection des présidents des ligues régionales et l'élection bureau exécutif national. Déjà, vendredi prochain, le comité de normalisation a une réunion importante pour lancer ce processus avec le président de club. Nous allons adopter une assemblée générale qui va adopter les prochains textes. Donc, je suis un président comblé. Le comité d'organisation poursuit sereinement sa mission et tient à la terminer en fin décembre dans les délais comme initialement prévu.
À retenir de ce journal, le Cameroun dispose désormais d'un musée des ordres nationaux. La structure basée au musée national à Yaoundé était inaugurée en fin d'après-midi par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goûté. C'était lors de la commémoration du centenaire du mérite camerounais. 20h30, fin de ce journal, technique Désiré Melingui, réalisation plus Kandjeng Ngolo et Ibrahim Mohamed Abassi, rédacteur en chef Simon Lyonga. Je suis Marie-Chantal Noa. Merci. Restons avec la Cameroun Radio Télévision.